est-ce que ça marche le micro? Ça va? Vous m'entendez au fond? Super. Alors j'espère que vous avez bien mangé. Je me disais que pour lire la Bible, c'est un rappel. Pour lire la Bible, il y a un truc super, c'est d'en avoir une. Et puis de la prendre en main de temps en temps. Même si vous n'arrivez pas peut-être à la lire, ne serait-ce que de la tenir, ça devrait être un geste quotidien pour nous, de prendre la Bible en main, ne serait-ce que de l'ouvrir, de lire peut-être une phrase si on n'arrive pas à la lire, mais déjà de commencer à s'habituer à l'objet lui-même. Cette espèce de bibliothèque à disposition qu'on a avec ses 73 livres, et de se dire ce livre est la parole, tient la parole de Dieu, quoi, contient la parole de Dieu. Alors, si vous n'y arrivez vraiment pas, vous avez aussi la Bible en manga. Alors, j'ai regardé, c'est absolument génial. C'est une maman qui m'a dit que sa fille de 10 ans l'a lu en 15 jours. En 15 jours, elle s'est fait toute la saga. Alors, c'est façon manga, il n'y a pas tous les... Tout n'y est pas, mais j'ai regardé, c'est assez génial. Alors, les titres sont un peu changés, vous voyez. Par exemple, le livre des justes, c'est les magistrats. Les prophètes, c'est les messagers. Le début de, vous voyez, dans le désert, quand ils ne sont pas contents, tout ça, c'est la mutinerie. Donc, j'ai trouvé ça assez génial. La dernière fois, on a regardé donc le Pentateuque avec la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Et on a vu que c'est un peu la maquette de toute la Bible et que c'est aussi une sorte de structure humaine très fondamentale. Dans la Genèse, l'homme découvre qu'il a besoin de Dieu parce qu'il était au paradis originel, il a tout gâché, et ça se termine dans un cercueil en Égypte. Donc sans Dieu, c'est la mort, et c'est l'Égypte, c'est l'esclavage. Dans l'Exode, justement, on comprend qu'on a besoin d'un libérateur parce qu'on est esclave. Dans les Nombres, on comprend qu'on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'être éduqué. Parce que tout d'un coup, on a l'arche d'alliance, on est en présence de Dieu, mais comment on fait maintenant? Nous sommes libres, ok, mais comment on fait pour user de notre liberté avec sainteté? Et puis, ce n'est pas toujours facile, alors on se met à râler, parce que le Seigneur nous éduque en nous faisant marcher dans le désert parfois. Et on a des périodes, on disait à table, nous, il y a des heures de désert dans la journée, des fois il y a des journées de désert, parfois il y a des mois de désert, parfois il y a des années de désert. Eux, c'était 40 ans. Et on comprend qu'ils râlent, mais Dieu est patient. C'est un peuple à la nuque raide. Et puis finalement, à travers ces expériences d'échec, voilà que le peuple est enfin prêt à entrer dans la terre promise. Alors la terre promise, je crois que c'est le symbole de la grâce. La terre promise, c'est le lieu de l'union à Dieu, en fait, symboliquement. Vous voyez ? L'Égypte, c'est le lieu de l'esclavage. Le désert, c'est le lieu de la conversion. La terre promise, c'est le lieu de l'union. Je pense qu'on peut dire ça. Vous voyez, Égypte, désert, Canaan, terre promise. Il ne suffit pas, vous voyez, de quitter l'esclavage du péché. Il ne suffit pas de marcher dans le désert et de vivre une vie morale. Ce qu'il faut, c'est être uni à Dieu, c'est demeurer en Dieu. Et c'est pour ça qu'on va voir deux grands passages dans la vie spirituelle qui nous sont manifestés dans l'Écriture à travers deux traversées de fleuves ou de mer. Vous avez le passage de la mer Rouge, on va passer d'Égypte au désert. Donc là, je dirais que c'est comme si on passait de l'esclavage à la vie morale, si vous voulez, du monde du péché vraiment à une vie honnête. Et puis, il y a le deuxième passage, le passage du Jourdain. Et là, c'est de passer de la vie honnête à la vie mystique, de passer simplement d'une vie morale à une vie d'unité avec Dieu. Donc on a comme deux grands passages comme ça, le passage de la mer Rouge, et puis le passage du Jourdain. Et c'est intéressant de l'identifier dans notre vie. Ok, on s'est converti, on vit à peu près honnêtement. Maintenant, qu'en est-il de mon union à Dieu? Alors, c'est ça qu'on va essayer de voir à travers justement l'entrée en Canaan. Le dessein de Dieu n'étant pas seulement de nous faire vivre moralement, mais de nous faire vivre mystiquement, de nous faire vivre de l'union à lui, de nous faire entrer dans la communion. Alors, le livre de l'entrée en Canaan, c'est Josué. Vous vous souvenez que, malheureusement, Moïse n'entre pas dans la terre promise. C'est assez mystérieux la fin de la vie de Moïse. On ne sait pas quelle faute exactement il a faite. Toujours est-il qu'après avoir conduit ce peuple durant 40 ans, voilà que lui-même n'entre pas. Moi, je trouve ça symbolique parce que Moïse, c'est l'homme de la loi. Et je trouve que symboliquement, ça veut dire qu'on n'entre pas dans l'union à Dieu par la loi. La loi, la morale ne suffit pas à être en communion avec Dieu. Moïse, qui est l'homme de la loi, de l'intégrité, n'est pas celui qui va entrer dans la terre promise. Ça ne suffit pas. Il va y avoir un autre personnage, c'est le sixième livre de la Bible, Josué. Alors Josué, on l'a dit la dernière fois, Yehoshua, c'est exactement le même nom que Jésus. Donc ce n'est pas pour rien. C'est Jésus qui nous fait entrer dans la communion avec Dieu ultimement. Et Josué est une préfiguration de Jésus. D'ailleurs, dans la traduction grecque de la Bible, qu'on appelle la Septante, le livre s'appelle tout simplement Jésus, le livre de Jésus. Donc c'est Jésus. Hein. Donc Josué, c'est la préfiguration de Jésus. De même que Josué fait entrer le peuple en Canaan, Jésus nous fait entrer dans le sein du Père. Alors c'est un livre intéressant pour comprendre les combats spirituels. Si vous aimez la bagarre, Josué, c'est votre livre. Il passe son temps à se battre dans ce livre. Donc c'est le sens du combat spirituel. Vous avez remarqué que dans la vie, on a à se battre un petit peu. Il y a un combat spirituel à mener. Eh bien, le livre de Josué est vraiment le livre pour en faire la théologie. Ça commence au chapitre 6, versets 16 à 24. Le premier grand combat, c'est contre la ville de Jéricho. Jéricho, c'était une ville avec une forteresse imprenable. Et donc, ça représente l'obstacle invincible à vaincre. L'obstacle invincible. Vous voyez, vous êtes face à des situations, parfois, vous dites, là, c'est game over, je ne peux pas. L'obstacle est trop grand. Ça, c'est Jéricho. Et alors, du coup, c'est source de désespoir. Quand vous désirez, mettons, entrer dans l'union à Dieu, justement, et puis que vous voyez qu'il y a des problèmes impossibles à dépasser dans votre vie, eh bien, ça, c'est Jéricho. On pourrait dire qu'au plan symbolique, Jéricho, c'est le monde du péché. D'ailleurs, c'est la ville la plus basse du monde. Quand vous allez en Palestine, vous descendez à Jéricho, vous descendez, c'est à 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, dans le monde entier, la ville la plus basse qu'on connaisse, c'est Jéricho. Je trouve ça intéressant. Ça veut dire que Jéricho, symboliquement, c'est le monde dans ce qu'il a de plus bas. La forteresse de Jéricho, c'est donc la puissance du monde, la structure du péché qui me semble invincible à vaincre. Alors on va lire cette première conquête. Le Seigneur dit à Josué, « Vois, je te livre Jéricho et son roi et ses vaillants guerriers. Et vous, tous les hommes de guerre, vous tournerez autour de cette ville, faisant le tour de la ville sept fois. Ainsi tu feras 6 jours durant le tour de la ville. » Les prêtres porteront 7 corps de bélier devant l'arche et le 7e jour, vous tournerez autour de la ville et cette fois les prêtres sonneront du cor. Quand retentira la corne du bélier, quand vous entendrez le son du cor, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville tombera sur place et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les prêtres et leur dit, et là il leur dit la même chose, il leur dit la tactique de guerre qu'il a reçue. Vous avez compris, hein ? On va se battre en tournant 7 fois autour de la ville en louant. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous réglez les problèmes dans votre vie. Si les armées du monde se battaient comme ça, ce serait un peu plus sympathique. Et c'est ce qu'on appelle une opération Jéricho. Quand vous avez un problème, tournez pendant 7 jours autour de votre problème dans la louange. J'ai un petit problème de chômage. Merci Seigneur. C'est fantastique Seigneur. Pendant 7 jours, vous tournez autour de votre problème. Opération Jéricho. Bah, essayez. Il y a des témoignages étonnants parfois de gens qui ont vraiment pris ça avec foi, qui sont des « Ok, je vais louer le Seigneur pendant 7 jours autour de mon problème au lieu de me plaindre. » Et le 7e jour, les murs de Jéricho s'écroulent. Donc, on a une première bataille contre le monde dans ce qu'il a de plus bas. Et on a une première victoire. Une victoire qui s'opère par la louange. Il faut découvrir ça, je pense, hein, la puissance de la louange. Ça nous est montré ici. Dans le combat spirituel, quand c'est difficile, n'oublions pas la puissance de la louange. Il y a beaucoup de textes dans la Bible qu'on pourrait mettre en parallèle où on voit à chaque fois que le Seigneur bénit celui qui loue le Seigneur. Alors la deuxième bataille, c'est la bataille de Haï. Haï, A-I, tréma. Hein. Ça fait penser à Houille. Effectivement, on pourrait dire que le monde est un cactus. Dans le monde, il y a des cactus. Aïe, 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 ouille, ouille, ouille. C'est une bataille qui va très mal se passer, étant donné qu'ils ont vécu un obstacle extrêmement grand. Maintenant, ils sont tombés dans l'orgueil. Ils sont sûrs d'eux, ils sont présomptueux, ils sont devenus vaniteux. Rien qu'en louant, on a conquis Jéricho. Ou alors, c'est pas cette petite ville de rien qui va nous poser des problèmes. Vous voyez, avant, ils avaient peur. Maintenant, ils sont dans la présomption. Les deux excès. Hein. On peut pécher par défaut. J'ai peur de me battre. Ou on peut pécher par excès. Je suis présomptueux et je vois même pas qu'il y a du danger. Et j'y vais la fleur au fusil comme s'il n'y avait pas de danger. Josué envoie des hommes à Haï, qui est près de Beth-Awen, à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez espionner le pays ». Ces hommes montèrent espionner et revinrent auprès de Josué et lui dirent « Que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes environ montent frapper Haï. Pas la peine d'envoyer le peuple tout entier, car ces gens-là sont peu nombreux. » Vous voyez ? Ici, ils comptent sur le nombre, en fait. Ils disent « Bon, ils sont peu nombreux, c'est une petite affaire. » Et en fait, ils tombent dans la présomption. Et le texte dit « Ils montèrent, mais ils s'enfuirent devant les hommes de Haï, et les hommes de Haï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent au-delà des portes de la ville. Ils les tuèrent dans la descente. Alors le courage du peuple fondit et il coula comme de l'eau. » Vous voyez, quand on est présomptueux, très vite, à la moindre difficulté, on désespère. L'homme fort, il n'est pas présomptueux, mais il tient bon dans la difficulté parce qu'il savait que ça allait être difficile. Le présomptueux, il est pris par surprise et c'est le knock-out. Alors ici, on est face à un deuxième grand problème dans le combat spirituel, c'est la présomption. C'est l'image de la chair, on pourrait dire. Au sens biblique, la chair, c'est quand on s'appuie sur soi-même. Quand on s'appuie sur ses propres forces, au lieu de s'appuyer sur Dieu, on est l'homme de la chair. On pense pouvoir contrôler tel petit problème dans notre vie, et en fait, on n'y arrive pas. On est capable de se battre contre des dragons, et puis ce petit problème, là, on se dit, oh, no big deal. Et puis en fait, non. On est vaincu par un petit problème alors qu'on était prêt à en découdre pour des grandes choses. Pensez à Saint-Pierre lors de l'arrestation de Jésus, il sort son glaive, il est prêt à en découdre. Et puis après, on se moque de lui pour son accent. Et là, il dit, je ne connais pas cet homme. Il a renié Jésus, alors que quelques heures auparavant, il semblait être capable de très grandes choses. Ben, ça peut nous arriver aussi. On est capable de très grands combats. Et puis des fois, pour des petites choses, on se fait avoir. Ça, c'est la bataille de Haï. Alors, on pourrait regarder comme ça toutes les batailles dans le livre de Josué. Et on verrait alors une sorte de théologie du combat spirituel. Mais le moment crucial du livre, pour moi, c'est le verset 1 du chapitre 13. J'aime beaucoup ce passage. Josué était vieux et avancé en âge. Alors, c'est pas parce que je me sens vieux et avancé en âge, mais c'est un passage qui me parle. Le type, il a passé 40 ans dans le désert. Il a passé toute sa jeunesse à se battre. Il a vécu que des combats toute sa vie. Et au chapitre 13, on nous dit alors, Josué était vieux, avancé en âge, lorsque le Seigneur lui dit, tu es vieux, Josué, avancé en âge. Donc là, on se dit que la suite du texte, ça va être dire, maintenant, on se calme, c'est le moment de prendre un petit peu de repos, est-ce que tu as pensé à ta retraite ? Eh bien, pas du tout. Le Seigneur lui dit, tu es vieux, avancé en âge, or le reste du pays dont il te faut encore prendre possession est considérable. Voici le pays qui te reste, tous les districts des Philistins, tous ceux des Guéchourites, depuis le torrent qui est en face de l'Égypte jusqu'au territoire d'Écron au nord, qui doit être considéré comme cananéen. Et là, il passe en revue pratiquement tout le pays en lui disant, ça, il faut encore le conquérir, ça, il faut encore le conquérir. Vous voyez, c'est comme si, regardez votre vie, vous êtes battu depuis déjà pas mal d'années pour être chrétien, et puis le Seigneur vient et puis dit, ouais, mais tu vois, ça, c'est pas encore évangélisé dans ta vie. Puis ça, je trouve pas que c'est très évangélique. Puis ça ne me ressemble pas. C'est-à-dire, c'est bon. Vous voyez, il y a un moment, on en a tellement marre de se battre pour essayer de vivre à peu près chrétiennement, qu'on se dit, bon, ça va. Oui, j'ai des gros défauts, c'est mon caractère, moi, c'est pas aujourd'hui que je vais le changer. Ben Josué, lui, il ne pense pas comme ça. Et on peut assez vite, au bout d'un moment, être fatigué de se battre et se dire, bon, maintenant j'arrête. Et on a intérieurement démissionné. Et c'est dommage. Je me souviens de ce père irlandais qui était pourtant un saint homme. J'étais aux États-Unis et lui, il partait en Irlande pour les vacances. Et puis il me dit, tu sais, quand j'étais jeune, quand je partais en Irlande, je voulais convertir le pays. Après, je voulais juste convertir Dublin. Maintenant, je veux juste faire une bonne partie de golf. Alors, en même temps, c'était un saint prêtre, vraiment. Donc, il avait beaucoup d'humour, comme la plupart du temps les Irlandais. C'était sa manière, mais j'ai gardé ça. Je me suis dit, ben ouais, ce serait dommage que ça soit vrai, en fait. Que, ouais, quand j'étais jeune, j'avais plein d'idéaux, puis maintenant, progressivement, ça va. Si je peux être juste un peu médiocre, c'est bon. À la fin du livre, on voit le choix de Josué, en tout cas. Chapitre 24, versets 14 et 15. Maintenant donc, craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité et fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il vous ne plaît pas de le servir, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, les dieux de vos pères ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Ouais, magnifique, au chapitre 24, là il est déterminé. Ok, moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Il prend sa décision en face de Dieu. Vous faites ce que vous voulez, moi et les miens, nous servirons le Seigneur. Donc c'est un livre extraordinaire de grande détermination dans le combat. Alors ça dure une période de 25-30 ans à peu près, hein. Abraham, vous avez une petite. Ceux qui ont le livre, page 15-16, hein, on a fait un petit truc pour s'y repérer historiquement. Abraham, disons 1850 avant Jésus-Christ. Moïse, on est 1200 avant Jésus-Christ. Là, avec Josué, c'est une période de 25 ans à peu près. Et puis après, on entre dans la période des juges. Alors, ça, disons de 1200 à 1030. C'est une période qui va durer à peu près, voilà, 100, 150 ans. Une fois que le peuple est entré en Canaan, eh ben, il va falloir qu'il s'organise. C'est un grand peuple, ils sont nombreux. On est entré en Canaan, maintenant on fait comment? On aurait pu penser que ce soit une période de plénitude, de paix. Canaan, est-ce que ce n'est pas le pays où coule le lait et le miel? J'ai dit que c'était le symbole de la grâce, de la communion avec Dieu. On pourrait penser que la vie morale, ça implique des combats, mais que la communion avec Dieu, c'est bon, maintenant on est dans l'ordre de la grâce. Eh ben non, c'est juste des combats différents. Il y a des combats pour être vertueux, puis il y a des combats pour demeurer en Dieu. Et donc dans le livre des juges, on va continuer de voir des combats. C'est pas seulement quitter le péché qui est difficile, c'est se maintenir dans la grâce, parce que notre cœur est inconstant. Et le livre des juges, c'est donc l'histoire lassante des inconstances du peuple. Le principe est simple, c'est un livre un peu lassant, parce que l'histoire est toujours la même. Vous changez les avatars, c'est tout. C'est toujours le même script, vous changez les personnages. Vous voyez, grosso modo, quand le peuple va bien, il prospère, il oublie Dieu, il commence à tomber dans l'idolâtrie. Alors Dieu n'est pas content. Donc Dieu cesse de le protéger. Du coup, les Philistins arrivent, ou les Amalécites, un peu tous les ennemis arrivent, ravagent le peuple. Le peuple maintenant crie vers Dieu, et Dieu, cette fois, il a pitié. Il envoie un juge, un guide, pour sauver le peuple, et le peuple est sauvé, le peuple reprospère, et le peuple revient dans les idoles. Donc c'est un peu toujours la même histoire. Mais pareil, ça nous rappelle peut-être notre vie aussi. Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent les Baals, donc les Baals, c'est les dieux païens, hein. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir de l'Égypte. Ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils offensaient le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur et ils servirent Baal et les Astartés. La colère du Seigneur s'enflamma contre Israël. Il les livra aux mains des pillards qui les pillèrent et les vendit à leurs ennemis d'alentour. Alors le Seigneur suscita des juges qui les délivrèrent de ceux qui les pillaient. Allez, même chose, donc même script. Puis vous allez avoir des juges différents. Des avatars différents. Vous allez avoir Déborah, une femme qui va guider le peuple. Vous allez avoir Gédéon. Vous allez avoir Samson. Puis finalement Samuel. Vous allez avoir Jephté, des personnages, des grands personnages de la Bible, mais au fond, l'histoire est très banale, c'est un peu toujours la même. Eh bien, ça nous rappelle notre vie personnelle. C'est ça le problème. Et ça me rappelle cette phrase qu'on entend tous, et que je peux dire moi-même, j'en ai marre de confesser toujours la même chose. Oui, c'est lassant. Alors moi, je vous dis quand même, en tant que prêtre, quand quelqu'un me dit, j'en ai marre de confesser toujours la même chose, je dis, mais heureusement. Si vous me disiez, ben là, mon père, j'ai fait un péché super original, je vais vous épater ce soir. Non, on n'est pas original dans le péché. Le démon n'est pas original, les saints sont originaux. Dans le mal, on est d'une banalité déconcertante. C'est évidemment toujours la même chose. Et ça serait même un problème si on cherchait à être original dans le péché. Donc du coup, le livre des juges me montre que nous ne sommes pas originaux, que c'est la même routine lassante. Et pourtant, ce livre m'est révélé, c'est le Seigneur qui le sait bien et qui dit « t'inquiète pas, je vais t'envoyer quand même un guide et tu vas voir que progressivement, on va passer d'une phase à une autre ». La dernière phrase du livre des juges est intéressante. Je vous ai dit que j'aimais bien regarder les premières et les dernières phrases. « En ce jour-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait. » Il n'y avait pas de guide en Israël. Chacun faisait ce qui lui plaisait. Donc en fait, c'est un peuple comme un troupeau sans berger. Là, on a déjà l'annonce de Jésus. « Mon peuple est comme un troupeau sans berger. » Jésus qui dira « Je suis le bon pasteur. » Donc là, on est dans l'attente. Qui va nous guider, en fait? Laissé à nous-mêmes, on fait que des bêtises. Qui va me guider? Alors, au milieu de tout cela, vous avez, on peut le prendre à la même période, le livre de Ruth. Au sein des livres historiques, qui racontent globalement des histoires terribles, des histoires gore parfois, des horribles choses liées au combat spirituel, eh bien, il y a un petit rayon de soleil. Il y a le livre de Ruth. L'histoire de Ruth nous est présentée comme se déroulant à l'époque des juges, même si historiquement on peut discuter, mais c'est présenté comme ça. Et donc on peut la lire en parallèle, ça repose un peu, parce que Ruth en hébreu, ça veut dire la compagne, l'amie. C'est un peu de douceur dans un monde de brutes. Ruth, c'est une Moabite, c'est-à-dire c'est une habitante du pays de Moab, donc une étrangère. Et le livre commence par nous raconter l'histoire d'une femme juive qui est veuve et qui a deux belles filles, qui sont des étrangères, et elle vient de perdre ses deux fils. Donc, vous voyez, elle est déjà veuve, elle vient de perdre ses deux fils, et elle se trouve avec deux belles-filles qui ne sont pas juives. Et alors, elle dit à ses deux belles-filles, « Bah, écoutez, je vous rends votre liberté. Retournez dans votre tribu et trouvez quelqu'un pour vous marier. Vous êtes libre. » Et alors là, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y en a une qui part, et puis Ruth décide de rester, et elle dit, « Ne me presse pas de t'abandonner, de retourner loin de toi, car où tu iras, j'irai, où tu passeras la nuit, je la passerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. » Étonnant serment de fidélité qui contraste avec l'infidélité du peuple qui passe son temps à retomber dans l'idolâtrie. Donc on a cette histoire lassante d'infidélité, et puis tout d'un coup, le petit rayon de soleil, Ruth, qui bien qu'étrangère, fait un serment de fidélité incroyable, « Où tu mourras, je mourrai. » Alors Ruth, elle fait partie de la généalogie de Jésus. Quand même très beau. Ruth va rencontrer Boaz, qui va l'épouser. Boaz est juif. Et donc, elle va faire partie du peuple juif, en fait. Et elle fait partie de la généalogie de Jésus. Donc c'est très beau. On peut donc dire peut-être que c'est une préfiguration de la Vierge Marie, Ruth, la Vierge fidèle. Marie, dans sa fidélité, est préfigurée par Ruth, qui fait ce serment de fidélité, alors que tout le monde est infidèle. Donc, de temps en temps, dans la Bible, vous allez avoir comme ça des petits moments de repos. Il y aura le Cantique des Cantiques, il y aura le livre d'Osée, chez les prophètes. Vous avez parfois des choses beaucoup plus poétiques, beaucoup plus jolies. Puis parfois, on repart dans le combat. Et effectivement, les choses jolies sont assez courtes parce que la vie est un combat. Mère Teresa disait ça, la vie est un combat, accepte-le. Donc il faut entrer dans le livre suivant, qui va être le livre de Samuel. On a terminé avec le livre de Juges. En ce temps-là, il n'y avait pas de guide en Israël. Et le peuple, il veut un guide au bout d'un moment. Et le dernier des juges, c'est Samuel. Et le peuple va aller voir Samuel en disant « Nous voulons un roi ». Donne-nous un roi, comme les autres peuples. Les peuples sont organisés autour de nous, les Philistins sont organisés, les Amalécites sont organisés. Nous, on n'a pas d'organisation. Nous voulons un roi, on va être comme tout le monde. Vous vous rappelez que c'est le problème. Dieu ne voulait pas que son peuple soit comme tout le monde. Il a tout fait pour que ce peuple soit séparé, différent. Et là, leur grande tentation, c'est pour ça qu'ils retombent dans l'idolâtrie toujours. On veut être comme les autres. Alors, ça ne plaît pas à Dieu, mais comme d'habitude, quand vraiment le peuple n'accepte pas le plan A, Dieu a un plan B. Et il n'est pas méchant, il ne va pas dire « bon, bah, maintenant, débrouille-toi ». Je ne voulais pas de roi pour toi, je voulais être ton roi. Je voulais être le seul roi pour Israël. Et tu ne veux pas de moi? D'accord. Bon, mais je vais quand même te choisir toi-même les rois, parce que c'est tellement bête que tu vas prendre les pires. Donc je vais au moins chercher les meilleurs. Ça ne va pas être génial, mais c'est ce que j'ai mis en magasin. Et c'est, Donc Dieu va choisir à travers Samuel, il va désigner le roi lui-même. Mais à chaque fois, ça va mal se passer. Saül, il devient fou. C'est le premier grand roi, hein. Il devient fou, il est jaloux de David, il veut tuer le petit David parce qu'il a compris que celui-là, il a vaincu le Philistin et, alors que Saül, il n'a pas été au combat. Donc il est jaloux, il devient jaloux, il veut vraiment sa mort. David, lui, il commet aussi un gros péché quand même, plusieurs. Et avec la femme d'un de ses soldats, il met au monde Salomon. Alors Salomon, ça commence bien. Salomon, Shlomo. Son nom porte la paix, Shlomo, ça veut dire le shalom. Hein, donc c'est Salomon, c'est le prince de la paix, si vous voulez. Donc c'est extraordinaire. Et de fait, pendant 40 ans de règne, il n'a pas eu à se battre. Il a construit le temple pendant ce temps-là. Saül s'est beaucoup battu. David a passé son temps à se battre. Il a du sang plein les mains. Salomon, c'est différent. Salomon, lui, il a construit le temple. Mais alors Salomon, c'est un excessif. À titre indicatif, il a 700 femmes, et comme si ce n'était pas suffisant, il rajoute 300 concubines. Ça fait beaucoup. Et du coup, bah, les femmes sont pieuses, alors il faut leur construire des temples. Comme il a des concubines de pays païens, bah, il commence à réintroduire des temples, jusqu'à réintroduire par exemple un temple à Moloch, qui était le dieu auquel on sacrifiait des enfants. On dit, mais quel dommage, il commençait si bien. Salomon, le fils de David, celui dont on dit qu'il n'y a jamais eu d'homme plus sage avant lui ni après lui, ce qui a écrit les proverbes, qui a écrit le cantique des cantiques, en tout cas selon la tradition, la légende même. Qu'est-ce qui lui a pris à la fin de sa vie pour devenir si teubeux? Alors, vous avez donc des rois, Saül, David, que j'ai derrière, hein, avec sa harpe, parce que c'est aussi un artiste. David, il est fantastique, c'est un guerrier, c'est un poète, c'est lui qui a écrit les psaumes, la plupart des psaumes sont de David, c'est un musicien, c'est un sage. David, c'est extraordinaire, comme plénitude d'humanité. Eh bien, vous avez donc Saül, David, Salomon, et ça va se passer plutôt mal. Et le pire, ça va être Roboam, le fils de Salomon. Roboam, c'est vraiment le gros ballot, si je peux me permettre. Vous vous souvenez que le peuple est structuré par les 12 tribus d'Israël. Lui, Roboam, il prend le pouvoir, il accède à l'autorité royale. Du coup, le peuple se rassemble et il va faire un premier discours. En un discours, il va diviser les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Roboam se rendit à Sichem. Car c'est à Sichem que tout Israël était venu pour le proclamer roi. Les Hébreux parlèrent à Roboam en ces termes. « Ton père a rendu lourd notre joug. Toi maintenant allège la lourde servitude de ton père et le lourd poids qui nous a imposé et nous te servirons. » Oui, c'est la révolte des agriculteurs avant l'heure. Là. Ils arrivent et disent « là, il faut changer un petit peu les règles parce qu'on n'en peut plus. » On n'en peut plus là, donc il faut vraiment faire quelque chose. Alors, au point de départ, Roboam va faire quelque chose d'intelligent, il va prendre conseil. Mais en même temps, il va faire quelque chose de moins intelligent, il va prendre conseil auprès de deux groupes, les anciens et les jeunes. Et les anciens vont lui dire, écoute le peuple souffre trop, allège sa charge. Et puis les jeunes, ils vont dire ce qu'il a envie d'entendre en fait. Vous voyez, nous, ça peut nous arriver parfois comme ça, on prend conseil, mais on s'arrange à prendre conseil de gens qui vont nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Et là, il va prendre conseil des jeunes qui lui disent, mais pas du tout, ce sont des feignants, continue comme ton père et augmente un peu la cadence. Ok, c'est malheureusement ça qui va suivre. Voilà le texte. Le troisième jour, le roi répondit durement au peuple. Il parla au peuple selon le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu pesant votre joug, moi j'augmenterai le poids de votre joug. Mon père vous a corrigé avec le fouet, moi je vous corrigerai avec des lanières cloutées. » Sympa. Le peuple lui répliqua « Quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons plus rien de commun avec le fils de Jessé. » Et Israël alla à ses tentes. Et là, vous avez un moment extrêmement important à comprendre pour lire la suite de la Bible. C'est qu'à cause de ce passage, à cause de ce moment, les 12 tribus d'Israël vont exploser. 10 vont partir au nord, ce qu'on appellera le royaume du nord. Et 2 vont rester au sud, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et Roboam va régner uniquement sur le sud. C'est un autre, il s'appelle Jéroboam. Contre toute attente, ce n'est pas une bouteille de vin énorme. C'est un personnage biblique. Jéroboam va régner au nord sur les 10 tribus d'Israël. Et puis au sud, on aura Roboam qui va régner sur les tribus de Juda et Benjamin. Et ça va très mal se passer. Là, vous pouvez lire le livre des rois. Les rois vont se succéder. Vous aurez une vingtaine de rois qui vont succéder. Au nord, ils sont tous pourris. Au sud, presque tous. Vous avez peut-être Josaphat, Ozias qui échappent. Mais ça se passe très mal, même avec Manassé qui réintègre lui aussi le culte à Moloch en plein Jérusalem. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est la difficulté que nous avons à régner sur notre propre âme. Prenez la division des 12 tribus d'Israël comme la division au cœur de votre âme. Quand saint Paul dit par exemple, « Il y a dans ma chair une loi qui va contre la loi de mon esprit », je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Même saint Paul dit ça. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Vous voyez, cette division des 10 tribus d'Israël, elle me parle de ma division intérieure. Comme nous avons du mal à être unifiés. Tout simplement à faire ce que nous voulons faire. Donc c'est l'expression symbolique de notre incapacité à régner sur nous-mêmes. Notre incapacité à être unifié. Et ça peut être très grave, parce que cette incapacité à être unifié, elle peut conduire à la mort spirituelle. Jésus le dira, « Tout royaume divisé contre lui-même court à sa perte. » Quand quelqu'un est trop divisé avec lui-même, quand ça va jusqu'au clivage, quand ça va jusqu'à être quasiment schizophrène, ça peut, au niveau psychologique, être extrêmement grave, mais au niveau moral aussi. On est double. L'inverse de Nathanaël, quand Jésus le voit arriver, il dit « Voilà un homme sans duplicité, franc du collier. What you see is what you get. » Pour nous, compliqué. Alors après ça, ça va aller de mal en pis. Vous voyez que le peuple est en attente d'un roi, en fait. L'Ancien Testament reste incoatif, ça reste un livre d'échecs ici. On a des combats sans victoire définitive. À chaque fois qu'on gagne un peu de terrain, on le repère ensuite. Donc c'est l'histoire lassante du peuple qui attend enfin un roi qui va le conduire à régner. Vous voyez, le règne de Dieu en fait. Et ce roi, ça va être Jésus. On avait, vous souvenez, avec les patriarches, la question « Où est l'agneau pour l'Holocauste ?» On peut dire que ce soir, on a une autre question, c'est « Où est le roi des rois ?» Qui va enfin régner? Qui va me permettre de vivre un règne de paix? Et ça va aller de mal en pis, la corruption va aller jusqu'à l'extrême. Et à ce moment-là, Dieu va envoyer des prophètes pour rappeler l'esprit. Les prophètes sont là pour rappeler l'esprit de la loi et annoncer une bonne nouvelle. Donc la prochaine fois, on verra les livres prophétiques et on reprendra un peu le fil historique pour passer justement qu'est-ce qui s'est passé entre la division des 12 tribus d'Israël, puis tout d'un coup, le dernier des prophètes, Jean-Baptiste, qui annonce l'agneau de Dieu. C'est quoi le reste de l'histoire? On regardera ça la prochaine fois. Mais dès la prochaine fois, on va entrer dans les prophètes, puisque comme le peuple va très mal, comme les rois sont insignifiants, eh bien, Dieu va envoyer des prophètes. Puisque les rois ne font pas leur boulot, je vous envoie des gens dont le rôle ne sera pas de régner, mais d'annoncer ma parole. On peut jeter un regard en arrière sur le chemin déjà parcouru. On a vu la Genèse et le péché originel. Là, c'est le début de tous les problèmes. Et puis, on a vu la première grande prophétie de Dieu. Il y aura un descendant de la femme, dit Dieu au serpent, et il t'écrasera la tête. Toi, tu vas l'atteindre au talon, mais lui va t'écraser la tête. Donc, la Bible commence avec une prophétie, une semence, une généalogie, une histoire qui commence. Et cette histoire, alors, elle commence avec les pères, avec Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Ça commence par les patriarches, des gens dont on nous parle au fond, on décrit beaucoup leurs émotions. Manifestement, Dieu essaye de sanctifier le cœur des pères. Il commence comme ça dans sa pédagogie, si je regarde la Bible. Après Moïse, ce n'est pas tellement un père. Qu'est-ce que vous diriez de Moïse? Abraham, on connaît son enfant. Isaac, on connaît son fils. Jacob, on connaît sa femme. Vous voyez, Sarah, Rachel, Rebecca. C'est une histoire de famille au début. Moïse, c'est qui son épouse? Sipora. Bon, ça va encore. Mais vous pourriez me donner le nom d'un de ses fils? Moïse, c'est pas. Le problème de Moïse, ce n'est pas un père. En revanche, ce que vous savez de Moïse, c'est qu'il a donné la loi. Donc Dieu a d'abord sanctifié le cœur des pères, ensuite il va sanctifier l'intelligence du législateur. Avec Moïse, on a Dieu qui essaye de reprendre le peuple dans l'intelligence. Avec les rois, c'est ni le cœur du père, c'est ni l'intelligence du législateur, c'est l'autorité de celui qui gouverne. Il y a comme trois domaines que Dieu va essayer de reprendre progressivement. On va sanctifier le cœur des pères, on va sanctifier l'intelligence. Et on va sanctifier le gouvernement, la maîtrise. On a ainsi les patriarches, les législateurs et les rois. Alors quel est le plus grand des patriarches? Abraham. Quel est le plus grand des législateurs? Moïse. Quel est le plus grand des rois? David. Donc au fond, vous pourriez dire jusqu'à présent, si on prend le sommet, on a Abraham, Moïse, David. Ça, vous pouvez résumer presque tout ce qu'on a dit à travers ces trois grands personnages, Abraham, Moïse, David. Là, on a les trois sommets, les patriarches, les législateurs, les juges, les combattants, dont David est l'excellence. Abraham, c'est la sanctification du cœur, Moïse, c'est la sanctification de l'intelligence, David, c'est la sanctification du gouvernement. Et pourquoi ça? Mais c'est parce que Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu est tout-puissant. Et au fond, comme il veut qu'on soit sa ressemblance, il va falloir que notre cœur devienne aimant, que notre intelligence devienne lumineuse, que notre gouvernement devienne efficace. Donc en fait, il va nous recréer à son image. Et tout ce déroulé biblique, c'est la manière dont Dieu progressivement reprend l'humanité pour la recréer à son image. Et comme tout ça a été blessé par le péché originel, eh bien, c'est pour l'instant un peu sous le mode de l'échec. Il reprend le cœur des patriarches, mais ça se termine en Égypte, dans un cercueil. Il reprend le cœur des législateurs, mais Moïse n'entre pas dans la terre promise. Il reprend le cœur des rois, mais David fait quand même d'énormes boulettes. Je ne dis pas ça parce que ce soir, on a eu des boulettes, mais... Toujours est-il que c'est très incoatif, l'Ancien Testament, c'est embryonnaire. On est dans l'attente de celui qui va vraiment nous révéler le cœur du Père. On est dans l'attente de celui qui va vraiment être la lumière du monde. On est dans l'attente de celui qui va vraiment être le roi des rois. On est dans l'attente de Jésus. Alors voilà pour ce soir. Et la prochaine fois, on regardera donc les prophètes. Bonne discussion.